France Inter.
Aujourd'hui, comment repenser nos relations aux animaux, racontées par
Cédric Sueur, professeur en éthologie à l'Université de Strasbourg.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Je tombe et pour la première fois, je ressens la gravité. Mon corps heurte une surface dure, un état encore inconnu. Ma respiration se fait haletante, irrégulière. Je tremble. Instinctivement, je sais que je dois me lever, mais la température glaciale me paralyse, absorbe toute ma concentration. Je tends une patte, pousse avec difficulté. Soudain, quelque chose de chaud me frôle. Une caresse d'un velours un peu rugueux. Une vague de réconfort me traverse et je me relâche, laissant mon membre retomber. D'autres tendres effleurements suivent, réchauffant peu à peu mon corps, j'ouvre un œil et la vois, c'est elle. Son odeur m'enveloppe et je la reconnais, nous sommes liés et pendant un instant, le temps cesse à nouveau d'exister. Mais la chaleur familière disparaît brutalement, elle s'éloigne, je crie un appel instinctif, elle me répond, mais sa voix se fond dans la distance, nos meuglements se font écho, de plus en plus désespérés jusqu'à ce que je ne l'entende plus, que je ne la vois plus. Le vide m'envahit et je m'effondre. Paniqué, je me redresse sur des pattes tremblantes, tentant de courir, de la suivre, mais je ne rencontre que des murs, des barrières qui m'enferment. Autour de moi, des dizaines d'autres similaires, alignés, me regardent et mugissent. Je n'ai jamais goûté le lait de ma mère. Dans 6 mois, je serai mort, ma chair découpée pour finir dans des assiettes.
L'abattoir, t'es dans le truc le plus symbolique, le plus violent de ce qu'est l'agroalimentaire aujourd'hui, et je pense depuis des années, quoi. C'est-à-dire que tu vois la mort et tu sens la mort. Il faut se dire, effectivement, je suis un élément constitutif de l'industrie de la mort. C'est pas anodin, on fabrique pas des chaises, quoi. On tue des bêtes. Et on tue des bêtes de manière industrielle. L'abattoir où je bossais, c'était 700 vaches et 3500 cochons par jour, quoi. 700 vaches, ça fait un cheptel.
Extrait d'un documentaire, Les damnés des ouvriers en abattoir. C'était en 2020, d'Anne-Sophie Reinhardt. Bonjour Cédric Sueur.
Bonjour.
En France, chaque année, 12 millions de veaux sont tués pour nourrir des humains. Comme vous le rappelez, dès les premières pages de cet ouvrage, les lignes que j'ai lues figurent dans votre livre « Décoloniser notre rapport aux animaux » que vous publiez chez Odile Jacob. Et vous ouvrez justement le livre par ces récits immersifs, hein, du point de vue à la fois du veau, d'un loup ou d'un macaque. Pourquoi vous avez choisi cette entrée pour parler à la fois de politique et d'éthique animale?
C'est quelque chose que j'ai fait dans différents livres, c'est vraiment me mettre à la place des autres animaux en tant qu'individu et de raconter leur histoire. Je pense que c'est une sorte d'anthropomorphisme mais qui est scientifique et raconté, et c'est vraiment essayer de se mettre à leur place et qu'on voit en fait ce qui est en train de se passer, parce que c'est des animaux qu'on objectivise, on les rend comme des objets, mais c'est des animaux qui ont des émotions, des pensées, des intentions, et ça il faut qu'on s'en rende compte, et je pense qu'en mettant ces mots-là, en racontant leur histoire, on arrive mieux à se rendre compte de ce qui est en train de se passer.
Vous pensez qu'on arrive justement à se mettre dans une sorte d'expérience incarnée comme ça par...
Je l'espère. En tout cas, ce livre-là n'a pas été encore distribué à décoloniser notre rapport aux animaux, mais pour les autres bouquins que j'ai écrits, que ce soit Le Dernier Gorille, Kamikaze Sarou, où je me mets vraiment à la place de primates, les gens m'ont dit qu'ils se sentaient vraiment, ils ressentaient vraiment les émotions des animaux qu'ils lisaient.
Ouais, cet ouvrage va sortir dans quelques jours chez Odile Jacob. Vous parlez d'exploitation systémique des animaux. En quoi justement notre rapport aux bêtes dépasse largement la seule question alimentaire pour devenir ce que vous décrivez, une sorte d'organisation globale de la domination?
Parce qu'on se rend même plus compte aujourd'hui tout le mal qu'on fait aux animaux, que ce soit les animaux d'élevage ou tout autre type d'animaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques. On ne se rend pas compte de ce qui se passe dans les abattoirs et le fait qu'il y ait 3 millions d'animaux par jour qui sont tués dans des conditions qui ne sont quand même pas top. Il y a souvent beaucoup de souffrance. On achète simplement notre beefsteak comme un objet. On ne sait même plus que c'est de la chair. On a l'impression que c'est juste une pomme ou quelque chose de totalement inerte qu'on va manger, alors que ce n'est pas le cas. C'est un animal qui aurait dû vivre et avoir des émotions positives et pas négatives. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on s'en rende compte, puisque C'est pas qu'une question de l'animal et d'altruisme, de bien-être à vouloir donner, c'est que la façon dont on gère notre environnement et les animaux est en train de nous retomber dessus. On est en train de détruire la planète. Et en fait, on essaye de trouver des solutions, mais qui sont toujours des solutions technologiques, où en fait, on essaye de gérer notre environnement, au lieu de se dire qu'il faut qu'on change notre façon de voir les choses, et qu'il faut qu'on change notre façon dont on exploite les animaux, qu'on ait plus des relations avec eux, des relations d'individu à individu, que d'humain à objet, en fait.
Ouais, c'est tout l'enjeu, hein, justement, de votre ouvrage, avec ce terme fort que vous mettez donc dans le titre, hein, décoloniser notre rapport aux animaux. Alors, ce terme de colonisation, pour décrire donc la relation entre les humains et les autres animaux, qu'est-ce qui raconte finalement ce terme qu'on met peu finalement pour parler de notre lien aux animaux, hein?
Le terme colonisé, on l'a beaucoup entendu autant jadis, hein, quand beaucoup d'empires occidentaux allaient conquérir d'autres pays. Et quand on conquiert ces territoires, on n'est pas là simplement pour conquérir ces territoires, on va aussi exploiter les personnes qu'il y a là-bas, les rendre esclaves. Et on les rend esclaves parce qu'on les considère comme étant inférieurs, différents de nous. Et quand on dit différents, c'est souvent inférieurs. Et comme ils sont inférieurs, ça nous permet de les invisibiliser, de les exploiter et de les approprier. Et donc, ce qui s'est passé, ce qui se passe encore avec la colonisation humaine, c'est exactement ce qui se passe avec la colonisation des territoires et la colonisation animale. Ça veut dire que on a des individus en face qui ont des émotions, qui ont des certaines capacités cognitives, et finalement, on n'accepte pas ces différences. On continue à faire des différences qui sont des différences sociétales et morales pour les exploiter et les invisibiliser. Et donc, j'ai voulu, à travers l'utilisation de ce mot qui a été aussi utilisé auparavant pour le colonialisme vert, par exemple, le fait de créer des réserves qui sont purement des réserves avec des animaux dedans où on vire les personnes qui habitaient
les populations
et qui sont gérées
locales,
par des Occidentaux. J'ai voulu reprendre ce mot pour montrer qu'on pouvait et on devait aussi l'appliquer aux animaux pour essayer de sortir de cette façon de voir les choses.
Il y a ce concept de spécisme aussi, hein, qui est au cœur de votre réflexion. Comment d'abord on peut le définir et en quoi finalement il raconte, il structure aussi notre vision aujourd'hui du vivant?
Le spécisme, c'est à peu près la même définition qu'on va avoir avec le racisme et le sexisme.
C'est la hiérarchie qu'on peut mettre, en l'occurrence, entre les espèces.
Exactement ça, en fait. On va avoir une différence entre les hommes et les femmes. Cette différence, c'est une différence biologique, d'hormones et sexuelle. On n'a pas les mêmes organes. Ce qu'il y a, c'est que certaines personnes font de cette différence une différence qui est sociétale et une différence morale, alors qu'elle ne devrait pas avoir lieu d'exister. La même chose pour le racisme. Il y a des ethnies qui ont des couleurs différentes, qui ont des morphologies différentes. Ça ne devrait pas créer de différences morales et de différences sociétales. Pourtant, certaines personnes le font. Et là, on a la même chose avec les animaux, et ça s'appelle le spécisme. En fait, on va créer des différences entre nous, humains, et les autres animaux, mais aussi entre différentes espèces animales, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Le meilleur exemple, c'est le chien et le cochon, qui a été repris par Peter Singer, une grande figure de l'éthique animale, mais... Par exemple, on n'accepte pas, nous, en tant qu'Occidentaux, de manger du chien, mais on mange du cochon. Alors que, au niveau des capacités cognitives, ils ont, ces deux espèces, la même intelligence. Voire, le cochon est considéré même parfois comme étant plus intelligent que le chien. Donc, on voit bien qu'on crée une différence de considération entre ces deux espèces, alors que, finalement, il n'y a pas de différence au niveau des capacités cognitives. Les deux souffrent, les deux comprennent les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc, finalement, si on applique... le fait de ne pas manger le chien, on devrait aussi se dire qu'on applique les mêmes conditions pour le cochon.
Donc cette hiérarchisation, finalement, elle nous donne des droits, finalement, sur les autres espèces. On s'accorde, en tout cas, de les dominer parce qu'on considère qu'elles sont inférieures à nous, évidemment.
On s'accorde. Et c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, assez occidental. C'est-à-dire que, depuis des siècles, on a grandi dans une vision où on considérait qu'on pouvait s'approprier les terres, s'approprier les animaux, créer des différences qui sont totalement normales et décider de leur vie comme bon nous semble.
Et s'approprier les corps aussi, hein.
Oui, tout à fait. Alors qu'il existe des sociétés autres, d'autres ontologies, donc d'autres façons de voir le monde, des ethnies amérindiennes ou asiatiques, qui vont avoir des relations qui sont plus des relations de réciprocité avec les animaux et sont considérés comme étant des humains à part entière.
En quoi le capitalisme, justement, a amplifié et aussi participé à l'industrialisation des animaux, puisque vous le racontez aussi dans votre livre, hein, avec une échelle sans précédent, hein, dans l'histoire, justement, des animaux?
En fait, le capitalisme va découler déjà de notre histoire assez religieuse avec le christianisme, où on s'est quand même mis en tant qu'humain au milieu du monde, et où les animaux ont été créés pour être dominés. Donc ça, il y a déjà une évolution un peu par rapport à ça, mais il y a aussi après les sciences qui sont apparues avec le développement des mathématiques, où tout était mathématisable, et à partir du moment où tout était mathématisable, on pouvait mettre une valeur sur tout. Ces deux visions-là, les mathématiques et les tout est mathématisable, et la vision chrétienne, ont amené un peu le capitalisme, et le capitalisme a amené à finalement c'est la définition du capitalisme, c'est de créer de tout ce qu'il y a autour de nous quelque chose qui a une valeur et qui peut être marchandisé. On peut créer de la valeur avec tout, les terres, les animaux, les différentes espèces, même les humains entre eux.
Donc c'est transformer effectivement ces aliments en marchandises,
oui.
Avec un procédé d'industrialisation à grande échelle aujourd'hui, on le voit. Cette notion de sentience également qui revient dans votre ouvrage, ça joue un rôle central. Pourquoi justement la capacité, hein, parce qu'il faut le définir, à ressentir à la fois la douleur et le plaisir, ça change radicalement la question morale liée justement aux animaux?
Parce qu'à partir du moment où les animaux vont avoir les mêmes capacités émotionnelles de souffrance que les humains, si moi, en tant qu'humain, je n'aime pas souffrir et je n'aime pas qu'on me fasse souffrir et je n'aime pas faire souffrir les autres humains, s'il n'y a pas de différence entre ma souffrance et la souffrance des animaux, eh ben, par corrélation, par parallélisme, on devrait aussi dire qu'on ne devrait pas faire souffrir finalement ces animaux. C'est le principe de l'éthique animale, hein, c'est le fait de dire on a un argument A, un argument B, donc du coup ça donne cette considération C. Il y a eu beaucoup d'arguments qui ont été avancés en éthique animale pour essayer de comprendre justement quelle valeur morale il fallait donner aux animaux. Et la souffrance est une de ces considérations morales qu'il faut prendre en compte. Après, il y en a d'autres. Mais en tout cas, par principe et considération morale qui est appliquée aux humains, on devrait aussi ne pas faire souffrir les animaux.
Donc c'est l'idée qu'il faut prendre aussi leurs intérêts en compte, qu'on ne fait pas du tout.
Et oui.
Votre ouvrage, justement, nous emmène sur des pistes pour essayer de voir comment on peut repenser notre relation, nos relations aux êtres vivants. On va en parler avec vous dans un instant, Cédric Seur, et puis vous répondrez au message qui arrive pour vous sur la page de La Terre au Carré.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
Le chien aux yeux d'Asiate est l'associé de l'homme. 60 km par jour, 300 kg de charge par traîneau. Leurs rapports depuis 2000 ans sont trop profonds, trop anciens pour être exprimés. Tacitement, ils sont tous deux conscients qu'un lien mystérieux, presque cosmique, les unit. Ils sont inséparables. L'Esquimau ne peut exister sans le chien. Le chien s'est donné jusqu'au sacrifice. Et l'homme lui en demande d'autant plus qu'il l'estime davantage.
Voilà, en 1970, à une époque où on parlait encore des Esquimaux du Groenland, on dirait les Inuits aujourd'hui. Cédric Seur, vous êtes notre invité, vous qui êtes professeur en éthologie et primatologue avec ce livre « Décoloniser notre rapport aux animaux », c'est chez Odile Jacob. Est-ce que la relation des Inuits et avec leurs chiens, justement, chiens de traîneau, indispensables évidemment à leur survie, peut être assimilée à une forme de domination, ou est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose, comme on vient d'en entendre parler, de l'ordre du lien cosmique? Comment vous analysez la nature de ces rapports?
Alors, je ne suis pas anthropologue, donc je ne suis pas spécialiste des Inuits, mais en tout cas, je sais qu'ils ont une pensée qui est animiste, donc c'est-à-dire que normalement, ils associent à tout animal, voire même toutes des plantes ou des objets, des esprits, et ils vont être en relation avec ces différents esprits, parfois de manière positive, parfois de manière négative, mais ils peuvent avoir une certaine réciprocité, donc des échanges réciproques et une considération envers des animaux autre que leur ethnie, si vous voulez, autre que humain. Donc, c'est quelque chose qui est assez différent de la relation que nous, on peut avoir en tant qu'occidental, où on va dire qu'on a une relation, une ontologie plus naturaliste.
Mais là, le chien est utilisé aussi pour travailler avec l'humain, donc est-ce qu'on peut aussi y voir une forme de domination de notre espèce sur les canidés?
Mais, quand je suis au travail et que je travaille avec mes collègues, il n'y a pas une forme de domination, on est dans une forme de réciprocité, de coopération. Je pense qu'on peut aussi travailler avec les animaux dans une forme de coopération et de réciprocité sans qu'il y ait justement de domination. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, si on va avoir un chien de travail, il faut accepter que ce chien de travail ait des heures de travail, un peu comme nous en tant que salariés, qu'il puisse aussi avoir une retraite et qu'il puisse avoir des besoins qu'il faut respecter. Mmh. Donc c'est rentrer dans une forme de réciprocité où on va accepter les besoins et faire un contrat de travail finalement à ce chien, si vous voulez.
Donc lui accorder des conditions qui seraient les mêmes que pour des humains.
Totalement, oui.
L'ontologie naturaliste décrite par Philippe Descola, vous l'abordez également dans votre ouvrage. Comment ça influence encore notre manière moderne de penser le vivant aujourd'hui, puisque vous évoquez les ontologies?
Ben c'est pas comment ça influence encore, c'est notre façon de penser. En fait, et ça c'est aussi hérité à beaucoup de notre religion chrétienne, on va considérer que seul l'homme a une âme, seul l'humain a une âme, et donc une conscience, et que tous les autres espèces animales n'en ont pas, et donc n'ont pas non plus d'âme, n'ont pas non plus de conscience. Mmh. Ça, c'est intéressant. Et on appelle ça naturaliste parce que du coup, on va avoir la même physicalité dans le sens où on sait qu'on va tous respirer de l'air grâce aux poumons, que ce soit nous, humains ou animaux, qu'on a un système digestif, on est fait de la même façon, mais on va avoir une intériorité qui va être différente. Nous, on a un esprit, une conscience, les animaux n'en ont pas. Contrairement aux animistes qui vont considérer qu'ils vont avoir justement une même intériorité, ils ont tous une conscience, mais qui va s'exprimer différemment à travers une physicalité différente. Nagel disait par exemple, bon, c'était un occidental, mais on ne saura jamais ce que pense la chauve-souris. Pas parce qu'en fait, la chauve-souris, même si elle a une conscience, sa façon de l'exprimer à travers ses sens va être différente de notre façon de l'exprimer à travers nos sens. On n'arrivera jamais finalement à penser ce qu'elle pense. Et ça, c'est assez intéressant. Et cette ontologie naturaliste, elle est vraiment présente. On a encore du mal à attribuer le fait que des animaux puissent avoir une conscience.
Et justement, comment ça pourrait se matérialiser concrètement en fait, dans notre rapport ici en Occident avec d'autres animaux, puisque ça existe déjà dans certaines cultures? Donc, cette perspective animiste, concrètement, ça pourrait vouloir dire quoi alors?
Mais ça voudrait dire que dans les relations qu'on a avec les animaux, on va aussi leur attribuer des droits. Ça a été déjà réfléchi d'un point de vue occidental avec un bouquin comme Zoopolis qui a été très bien réfléchi, où ils ont essayé de réfléchir les droits des animaux entre les animaux domestiques, les animaux sauvages et les liminaires. Les liminaires, c'est les animaux qui vivent entre le milieu sauvage et le milieu urbain, par exemple, qui vivent avec nous mais qui restent sauvages. Mmh. Et quand on parle des animaux domestiques, on va dire, ces animaux domestiques, on va leur attribuer une citoyenneté, comme nous on est citoyens dans notre ville, dans notre pays, ces animaux, ce chien, ce chat, vont être aussi citoyens. Mais souvent, les personnes qui vont lire le bouquin vont s'arrêter là, ou vont se dire, c'est pour les chats, les chiens, ils sont aussi citoyens. Mais non, c'est pas simplement ces chats, ces chiens qui vont avoir aussi des heures de travail ou une retraite. Ça voudrait dire aussi que tout animal qu'avant on exploitait, il devrait aussi avoir ses droits et cette citoyenneté. Donc ça veut dire du coup ne plus manger de viande par exemple, puisque tuer un animal serait mal au même titre que tuer un humain. Et si on exploite ou si on coopère avec d'autres espèces, par exemple une poule qui va donner des œufs, cette poule, quand elle a arrêté de donner des œufs parce qu'elle a 3-4 ans, on ne va pas la tuer pour la manger, on va la mettre aussi dans un sanctuaire où elle va finir par vivre ses derniers jours. Donc on peut coopérer avec des espèces animales pour nous nourrir, par exemple le lait des vaches, les poules, les œufs des poules ou le miel des abeilles, mais il faut aussi respecter ces individus derrière.
Alors certains refusent même de manger des œufs ou de boire du lait. Le véganisme, donc, qui est souvent présenté comme une forme de résistance, pourquoi est-ce que vous estimez que cette réponse ne suffit pas toujours précisément pour sortir, là aussi, de notre cadre occidental, de notre vision que nous avons des autres animaux ?
Ce n'est pas le véganisme que je ne considère pas comme étant une solution qui n'est pas la bonne, c'est l'éthique ou la pensée philosophique qu'il peut y avoir derrière le véganisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, on considère qu'il faut donner des droits aux animaux et des droits aux animaux sentients. Et que les animaux qui ne sont pas sentients ou les autres êtres vivants n'ont pas à être pris en considération dans cette équation. Et en fait, c'est une vision binaire des choses qui est le résultat même de notre façon de penser naturaliste. C'est-à-dire qu'avant, on considérait l'humain avant tout et les autres animaux, on n'en avait rien à faire, pardon. Les autres vivants, on ne les considérait pas, ils n'avaient pas à avoir de droits. Et aujourd'hui, on a décalé cette limite aux autres animaux sentients, où on peut leur donner des droits. Mais finalement, Il y a d'autres philosophes, alors je sais que mes collègues n'aiment pas forcément quand je parle de lui, mais il y a d'autres philosophes comme Baptiste Morisot, où vous allez avoir Bruno Latour, vous avez des personnes qui en parlent beaucoup mieux et beaucoup plus qu'on voit en ce moment.
Pourquoi vos collègues n'aiment pas que vous évoquiez Baptiste Morisot ?
Parce qu'en fait, ils vont parler du droit des vivants. Ouais. Et à partir du moment où on parle du droit des vivants...
C'est quoi ? C'est le terme vivant qui les dérange ?
En fait, le droit des vivants, ça va être donner des droits aux animaux, mais aussi donner des droits, par exemple, à des écosystèmes, des droits à des rivières, des droits à des montagnes, des droits à des environnements, où en considérant les droits de ces environnements, on peut mettre à mal le droit des animaux qu'il va y avoir derrière. Et c'est là la difficulté. Ils considèrent que l'objet du droit doit être l'individu avant tout, et l'individu qui souffre. Donc l'animal qui est sentient au même titre que l'homme, et que tout ce qui n'est pas individu ne devrait pas recevoir de droit, puisque donner des droits à ces entités vivantes ou non vivantes reviendrait à diminuer peut-être le droit qu'on donnerait aux animaux qu'il y a derrière, en par exemple exterminant les espèces invasives.
Donc on referme la parenthèse pour rebondir sur ce que vous nous disiez, en référence donc à certains philosophes, effectivement. Sur cette question, là, on parlait du véganisme, hein, et la façon dont vous trouvez encore, finalement, l'approche un peu binaire, hein, c'est ce que vous nous disiez.
Je pense que le fait de donner des droits simplement aux animaux sentients ne permettra pas de résoudre le problème de destruction de la planète qu'on a aujourd'hui, et je pense que on doit donner des droits aux animaux, mais on doit aussi étendre, pas forcément ces droits, mais au moins un respect à l'ensemble du vivant. Et ce vivant étant à la fois des individus, animaux ou plantes, mais aussi des écosystèmes où on va pouvoir reconnaître justement des choses à mettre en place pour essayer de sauvegarder cet écosystème et l'ensemble des vivants qu'il y a à l'intérieur.
Cédric Seur, la question justement de la conscience animale, la philosophie justement a longtemps nié ou minimisé en tout cas l'existence d'une conscience animale. Est-ce que là les choses sont en train d'évoluer sous nos yeux ou il y a encore beaucoup de chemin à faire ?
Il y a encore beaucoup de chemin à faire, je pense, parce que en éthologie, ça fait déjà un moment, ou en primatologie, qu'on a reconnu la conscience animale ou le fait que différents animaux avaient un certain degré de conscience. Mais c'est vrai que les connaissances autour de cette conscience animale sont très peu étendues. C'est-à-dire que, par exemple, il y a différents niveaux de conscience. Et quand on va donner un certain niveau de conscience à une espèce comme les abeilles, ça peut être rapidement repris dans les journaux où on va dire les abeilles sont conscientes. Mmh. Et du coup, quand on va dire ça, on va se dire bon, elles sont conscientes au même titre que l'homme l'est, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc nous, en tant que scientifiques, on sait qu'il y a différents niveaux de conscience. On sait plus ou moins mettre ces niveaux sur certaines espèces animales. Et puis, parfois, on sait qu'en tant que scientifique, que cette espèce animale est consciente et a un certain niveau de conscience élevé. Mais ça n'empêche que cette espèce est encore très exploitée dans le milieu de l'élevage ou dans le milieu de l'expérimentation animale, par exemple.
Et alors, comment on arrive à définir une conscience chez un animal ? Quels sont les protocoles expérimentaux qui permettent de tester ça, justement ?
Alors, vous avez des protocoles qui sont très complexes, mais vous avez la conscience d'accès. La conscience d'accès, c'est notre façon de réagir à notre environnement. Par exemple, si la porte est ouverte, je sais qu'il faut que je sorte par la porte. Mais ça, une abeille aussi, elle va sentir le vent, elle va pouvoir sortir par cette porte. Ça, c'est la conscience d'accès, elle sait manipuler son environnement. Vous avez la conscience phénoménale, là, ça va apparaître par rapport aux émotions. Donc le fait que c'est subjectif et que les animaux ne vont pas réagir forcément de la même manière à la même situation. Ça s'est testé sous des moutons, avec des moutons qui sont pessimistes ou des moutons qui sont optimistes. C'est assez intéressant, par exemple. Vous avez un seau vert qui va donner de la nourriture, un seau rouge qui, quand on s'en approche, émet un son comme un coup de pétard et du coup, ça fait peur. Mmh. Puis d'un seul coup, vous mettez une couleur qui est intermédiaire à ce seau vert et à ce seau rouge. Les moutons optimistes vont s'en approcher, les moutons pessimistes ne vont pas s'en approcher parce qu'ils ne savent pas trop comment réagir et ils ont peur. Bon, ça, c'est des expériences qui sont faites. Et puis après, vous avez la conscience de soi.
Alors, c'est ça. Ça, il y a des expériences assez connues, d'ailleurs, hein, sur le fait de pouvoir reconnaître un point sur le front. Ça fait partie des expériences, ça, par exemple ?
Pendant longtemps, ça a été une grande discussion. Et ça a été accepté que les animaux qu'on endormait et sur lesquels on mettait un point rouge sur le front quand ils se réveillaient, devant un miroir, s'ils étaient conscients d'eux-mêmes, ils allaient toucher le point sur leur front. S'ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes, ils devaient toucher le miroir. Ça n'a pas marché sur certaines espèces.
Lesquelles, par exemple?
Le gorille, ça a été très difficile à montrer parce que le gorille ne se regarde pas dans les yeux des autres gorilles. Donc, en fait, s'il se voit dans le miroir, il ne se regarde pas dans les yeux, il doit baisser la tête. Donc, il a fallu commencer à mettre des miroirs obliques pour essayer de montrer qu'il était capable de se reconnaître.
Ouais.
Ils ont testé ça chez les éléphants, mais ils mettaient un miroir à ses pattes. Donc, du coup, il fallait le mettre à son niveau. Donc, on a vu qu'il y avait certains problèmes, mais... Aujourd'hui, on sait que le poisson labre, qui est un petit poisson qui nettoie la bouche des autres poissons, comme les murènes ou les requins, en fait, si vous lui mettez aussi une tache rouge, il va passer sur le corps, il va aussi se regarder dans le miroir, plus longtemps du côté de la tache rouge que de l'autre côté.
Et ça, c'est une conscience de soi très claire ?
Alors, les auteurs, justement, discutent de ces résultats. Ils disent simplement, alors, soit... D'après ces résultats, le poisson est aussi conscient qu'un chimpanzé. Mmh. Et il faut qu'on revoie un peu tous les mécanismes neurologiques et cognitifs qu'il y a derrière le concept de conscience. Soit le concept du test du miroir est à mettre de côté pour reconnaître la conscience de soi.
Ouais. Mais alors, si c'est scientifiquement établi, ça veut dire qu'immédiatement, il y a des conséquences éthiques et philosophiques, alors, dans notre perception même des animaux.
Ah non, là, il faut des dizaines d'années avant que ça soit mis en place.
Non, mais si on arrive justement à un protocole qui nous prouve qu'il y avait une conscience chez l'animal, on devrait normalement, en tout cas, reconsidérer très rapidement les choses, non ?
Ah oui, normalement, dès qu'on trouve des résultats qui sont similaires à ceux qu'on a pu trouver chez des grands singes et qu'on a pu trouver chez des humains, puisque à partir du moment où on avait mis dans les règles qu'on n'utilisait plus les grands singes, en expérimentation animale sur le fait qu'ils avaient des approches, des concepts cognitifs proches des nôtres, on devrait aussi considérer que toutes les espèces qui sont proches de ces grands singes et de nous ne devraient plus non plus être dans des protocoles expérimentaux ou même être mangés par les humains.
Normalement, effectivement, il y a encore du chemin sur ces questions. On va voir comment repenser précisément notre manière d'habiter le monde avec les autres vivants. Ce sera la dernière partie de cette discussion avec vous, Cédric Sueur, et puis vous répondrez au message qui arrive pour vous sur la page de La Terre au Carré.
France Inter, La Terre au Carré, Mathieu Vidard.
On n'est pas dans les montagnes ici. On a des parcelles un peu partout éloignées. On ne peut pas les protéger tout. On ne peut pas aller tous les soirs, tous les matins enfermer nos bêtes. Ce n'est pas une vie même pour les bêtes. Et puis non, ça ne peut pas aller. On ne peut pas cohabiter. Ils disent qu'il faut cohabiter avec le loup. Ce n'est pas possible.
Le loup s'adapte et s'adaptera toujours à ce qu'on va lui mettre en place. Il aura toujours une longueur d'avance. Donc la seule solution aujourd'hui, c'est et on protège les élevages et on régule la population de loups.
Voilà une vidéo de l'AFP en février. Brian Béguineau, éleveur de moutons en Haute-Marne. Cédric Sueur, vous qui êtes notre invité avec cet ouvrage Décolonisé, notre rapport aux animaux chez Odile Jacob et qui abordait donc cette question de la coexistence. Exemple entre le loup et d'autres animaux comme les moutons. On ne peut pas cohabiter, disait cet éleveur. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ?
Qu'il y a d'autres endroits dans le monde où cette cohabitation existe et se fait assez bien. Et que si ça s'est mal fait ou que ça se passe mal en France aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il y a des reprises médiatiques ou politiques qui sont faites pour justement manipuler un peu ce qui est dit ou ce qui est fait.
En tout cas, il y a des réalités sur le terrain.
Il y a des réalités sur le terrain.
C'est le témoignage de ce monsieur.
Quand et même, les moutons qui en empathisent ou les éleveurs qui en empathisent,
c'est
horrible.
C'est factuel.
Non.
C'est factuel.
Bon, après, les moutons, il faut savoir qu'ils sont élevés pour être tués ensuite, pour être mangés par les humains. Donc,
certes, mais pas dans cette chronologie-là.
Pas dans cette chronologie-là. Il faut savoir qu'il y a 20% de la population de loups qui sont tués en France depuis quelques années maintenant avec la régulation, alors qu'au niveau européen, on est à moins d'un mouton sur 20 000 qui est tué par le loup. Le reste étant tué par les humains pour être mangés. Donc c'est 6%, si vous voulez. Donc la différence entre 20% et ce chiffre est quand même assez énorme. On voit qu'il y a une mesure qui est faite, ou en tout cas des mesures qui sont prises en compte.
Que même chose, ce n'est pas des chiffres qui vont consoler cet éleveur, par exemple, dans son quotidien et dans le fait qu'effectivement ses moutons soient régulièrement attaqués par des loups.
Non, mais parce que je pense que c'est aussi une vision... Alors, c'est multicorrélationnel, hein, c'est multifacteur. Déjà, il y a notre vision des choses où, en fait, on a toujours contrôlé notre environnement, on a toujours appris à nous dire qu'il fallait qu'on contrôle notre environnement, qu'il fallait qu'il n'y ait plus de prédateurs pour éviter de manger les loups, et qu'aujourd'hui, avec le retour du loup, pour manger les moutons, pardon, avec le retour du loup, et du coup, tout ça est bousculé. Ça, c'est une première vision. Mais il y a d'autres... population, civilisation, où en fait la vision est totalement différente. Au Japon, il y a des problèmes de loups, mais il y a des problèmes avec les ours et avec les macaques qui vont dans les champs manger les fruits et les légumes, voire qui tuent des humains hein, pour les ours. Hein. Il y a eu quand même presque une dizaine de morts cette année au Japon. Et finalement, à chaque fois que je discute avec les Japonais, le discours est totalement différent. C'est bon, on a un souci. Mais en fait, ces macaques japonais ou ces ours, ils ont autant le droit de vivre sur ce territoire que nous. Il faut qu'on arrive à trouver une solution. Et quand on leur dit qu'ils vont venir tuer le groupe de macaques qu'il y a là, les habitants ne sont pas contents, en fait. Il y a des macaques qui sont quand même tués, 20 000. Alors, c'est 20 000 par rapport aux 500 000 cerfs ou sangliers qui sont tués chaque année.
Qui sont tués par qui, pardon ?
Par les humains. Les
macaques, oui, c'est ça. Oui, hein.
Par le gouvernement. Mais le discours est totalement autre. Et en fait, c'est là où il y a un souci. C'est qu'on voit que dans d'autres civilisations, le discours peut être totalement autre. Et que nous, le discours qu'on a, il faut qu'on se rende compte que c'est un discours qui a été construit après des années de colonisation animale, des siècles de colonisation animale. Et qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on arrive à vivre avec les animaux qu'il y a autour de nous, parce que sinon, on va droit dans le mur.
En fait, cette question, on voit depuis des années et des années qu'elle suscite énormément de tensions et que c'est souvent difficile même de dialoguer entre, par exemple, les éleveurs, ou je dirais même comme des théoriciens comme vous, hein, sur ces questions-là. Quand il dit, cet éleveur, justement, que le loup, de toute façon, s'adaptera toujours à ce qu'on lui imposera, là aussi, vous êtes d'accord ou pas ?
Oui, je pense que le loup est un animal qui est très intelligent et qui s'adaptera toujours, et je ne pense pas que l'éradication soit non plus une solution, dans le sens où, de toute façon, il est en train d'étendre sa population et qu'il faut trouver d'autres solutions. Baptiste Morisseau parle de la diplomatie des interdépendances ou ce qu'il appelle aussi les égards ajustés. En fait, dans ce problème, il y a trois acteurs qui sont l'éleveur, le mouton et le loup. Et en fait, il faut prendre en considération les trois. Il faut discuter avec les trois, en tout cas des représentants des trois, et essayer de trouver une solution. Je ne dis pas que je suis contre le fait de tuer des loups. En tant qu'humain, on se doit de répondre aussi à notre environnement comme une espèce animale le ferait. Les espèces animales, entre elles, c'est pas toujours pacifique. Nous aussi, quand il y a un problème à gérer, on peut parfois répondre de manière agressive, c'est-à-dire en tuant aussi ce qu'il y a en face, si ça tue les brebis, si ça tue aussi parfois la population humaine comme on a au Japon. Mais il faut essayer de trouver une solution qui est une solution construite, diplomatique, à long terme. Et je ne pense pas que l'éradication des loups soit une solution.
Sauf que là, on le dit tranquillement derrière un micro, on voit que sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile et complexe aussi à traiter. Vous qui parlez de décoloniser, Cédric Sueur, notre rapport aux animaux, plutôt que de simplement dire protéger ou mieux les traiter, comment on avance finalement dans cette réflexion-là, aujourd'hui, à la lumière de tout ce qu'on vient de se dire là depuis le début de l'émission, pour précisément parvenir à une décolonisation de notre rapport ?
En fait, à chaque fois qu'on a un animal devant nous, ou qu'on va interagir, peu importe cette interaction avec l'animal qui est devant nous, il faut qu'on arrive à se dire, ok, cet animal, il a aussi des émotions, il a aussi une certaine conscience, qu'est-ce que je fais de ça ? Comment j'interagis avec lui ? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ma façon d'interagir avec lui, est aujourd'hui une bonne solution ? Est-ce que je le ferai pour moi ? Est-ce que je le ferai avec mon chien ? Alors que là en face, peut-être j'ai un cochon. Ou est-ce que je dois agir de manière différente ? En fait, je pense qu'il faut remettre en question à chaque fois son interaction avec chaque animal.
C'est quand même une grosse révolution culturelle hein, dans notre rapport au vivant.
Mais je peux donner un exemple si c'est assez rapide. Mais moi, par exemple, j'ai des poules dans mon jardin et j'ai des voisins. Et du coup, comme j'ai des poules, il y a des souris. Les souris peuvent déranger mes voisins, donc je sais qu'il faudrait qu'il y ait moins de souris, mais je n'ai pas mis des tapettes pour tuer ces souris. Je les ai quand même capturées, mais capturées de manière vivante, pour pouvoir aller les remettre dans un autre endroit où je sais qu'elles seront mieux et où elles ne vont pas aller.
Et vous avez réussi à faire baisser la population de souris ?
Eh bien du coup, oui, parce qu'en 5 jours, on arrive à capturer une trentaine de souris, et après, il n'y en a plus, donc on capture toute la portée, et ensuite, on va les relâcher dans le cimetière qui est à côté. mais voilà, par exemple, c'est quelque chose que je fais où je me dis, j'aurais pu mettre des tapettes, mais je n'ai pas envie de faire ça.
Allez, on va passer aux questions. Régis nous dit, je suis très sensible au bien-être animal, mais je trouve inadmissible, obscène, de comparer ce que vous avez fait tout à l'heure, Cédric Sueur, l'esclavage humain, avec l'utilisation de l'animal dans notre alimentation. Est-ce que vous voulez préciser votre pensée là-dessus ?
Je compare les méthodes d'exploitation, je ne compare pas les personnes qui ont été esclaves avec les animaux, c'est deux choses différentes. Mmh. Et je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et question comparaison, il faut savoir qu'au moment où Darwin a sorti son bouquin Voyage sur le Beagle avec la théorie de la sélection naturelle, la comparaison a été horrible, dans le sens où les personnes de couleur noire, les Africains, étaient mis entre les Blancs et justement les grands singes, de manière à mieux pouvoir les exploiter. Donc c'est quelque chose qui a été fait à ce moment-là pour pouvoir les exploiter. C'est pas quelque chose qui est nouveau et qui a été inventé aujourd'hui.
Denise nous dit, si les humains ne peuvent plus manger des animaux, pourquoi la nature accepte-t-elle le fait que des animaux tuent d'autres animaux pour les manger? Ne sommes-nous donc pas des animaux, dit-elle?
C'est une façon de voir les choses, sauf qu'une autre façon de voir les choses, c'est qu'on a une conscience et une intelligence qui nous permettent de reconnaître que ces animaux ont aussi une certaine conscience et une certaine intelligence, même si elle est moindre que la nôtre. Mmh. Et on a développé aujourd'hui une alimentation qui nous permet de nous abstenir du fait de manger des animaux. Donc, par principe, étant donné que on n'aime pas faire souffrir des humains, on ne devrait pas non plus vouloir faire souffrir des animaux, et on devrait s'abstenir de manger des animaux.
Roman nous dit, pourquoi les esprits adeptes du spécisme qui ne veulent pas faire de différence entre nous et d'autres êtres vivants n'appliquent-ils pas ce principe avec les végétaux?
Parce que pour l'instant, on n'a pas montré que les végétaux souffraient. Et pour la souffrance, normalement aujourd'hui, il faut un système nerveux central. Donc on essaye de faire des corrélats et de faire des principes de précaution par rapport à ces corrélats sur les animaux où on a montré qu'il y avait déjà de la souffrance ou pas encore souffrance, mais on pense qu'il y en a. Pour les végétaux, il n'y a pas de souffrance, et au pire des cas, en fait, si demain on mangeait simplement des végétaux au lieu de manger des animaux, on ferait même moins souffrir les végétaux qu'en mangeant des animaux, puisqu'il y a quand même 60% des terres en France qui sont exploitées pour créer des végétaux qui sont donnés à manger par les animaux que nous on va manger. Mmh. Donc du coup, on ferait, en mangeant moins d'animaux, on fait aussi moins souffrir les végétaux.
Ouais.
Si on devait réfléchir dans ce sens-là.
Arrêtons de faire souffrir le soja, par exemple. Merci beaucoup, en tout cas, Cédric Sueur, décoloniser notre rapport aux animaux, comment repenser notre relation aux êtres vivants. C'est donc cet ouvrage que vous publiez chez Odile Jacob, mais qui va sortir, attention, seulement dans quelques jours. Il n'est pas encore en librairie.
La semaine prochaine, oui.
Mais ça va arriver la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Mais il est en précommande. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous d'être venu dans notre émission. Merci à Jérôme Boulet qui était à la technique aujourd'hui, Lucie Sarfati pour la programmation et la coordination de la Terre au Carré, Julien Dumont à la technique.